René Pujol, Le Soleil Noir. Chapitre 1. Jeanne était jolie. Toutefois, le sentiment qu'elle inspirait était moins l'admiration qu'un vif intérêt, tant on la devinait intelligente, incapable de pensées vulgaires et de calculs mauvais. Elle avait des yeux magnifiques, dont on ignorait la couleur exacte. Leur iris était nuancé de bleu, de vert, de gris, semé de parcelles d'or qui en augmentaient l'éclat. Ce jour-là, je la contemplais en silence. Je prenais plaisir à détailler ses traits délicats, tandis qu'elle se penchait sur une broderie. Parfois, elle mordait légèrement ses lèvres, puis elle relevait une boucle rebelle qui lui chatouillait l'oreille. Je souriais doucement à ma fiancée. Mon bonheur était complet. Jeanne était chez moi depuis la veille, avec son papa et sa maman, M. Jérôme Sternebal et Mme Amélie Sternebal. La Noël étant un vendredi, les commerçants faisaient le pont. Ils avaient donc fermé leur magasin pour 3 jours, car mon futur beau-père tenait une boutique d'opticien rue Sainte-Catherine à Bordeaux, et ils étaient venus passer leurs vacances sous mon toit. J'étais chargée d'école à Roquedoutot, près de Blaye. Je me plaisais beaucoup dans ce pays, entre la Gironde aux eaux paisibles et le vignoble qui fournit un vin justement réputé. La commune étant petite, je n'avais pas beaucoup d'élèves, et mon travail n'avait rien de pénible. Féru de mon métier, je me passionnais à l'ébauche des jeunes âmes qu'on me confiait. « Où est papa ?» me demanda Jeanne. « Il achève de peindre la porte du chai. » Si j'ose m'exprimer ainsi, la peinture était le violon d'Ingres de M. Sternebal. L'honorable opticien employait ses loisirs à recouvrir de couches multicolores tout ce qui lui semblait digne de son pinceau. Chaque fois qu'il venait me voir, il apportait des pots de peinture. Il me suffisait de les compter pour savoir combien de jours il entendait me consacrer. Grâce à lui, autant qu'à la vieille femme qui prenait soin de mon ménage, une carabosse dont je n'ai jamais connu que le surnom, la barboque, ma maison était un bijou de propreté. Il n'est pas mauvais d'avoir des distractions laborieuses. De mon côté, je profitais de mes heures de liberté pour cultiver une pièce de terre située derrière l'école, et nul ne longeait mon enclos sans me complimenter sur mes légumes ou sur mes arbres fruitiers. « Vous verrez, dit Jeanne, qu'un beau jour, papa se peindra lui-même. » Je me mis à rire à l'idée que la longue et maigre figure de M. Sternebal pourrait s'orner de tatouages. Le digne homme approchait de la soixantaine. Les soucis commerciaux avaient marqué sa physionomie de 2 rides profondes, qui, partie de la base de son nez, donnait l'illusion qu'il avait les joues roulées comme des crêpes. Quant à son front, il était barré d'une tempe à l'autre par 3 sillons rigoureusement parallèles, dont les extrémités se perdaient dans la chevelure encore drue. « Vous êtes taquine, dis-je à ma fiancée. Vous serez cruelle pour moi si je deviens trop vieux. »« Oh, je serai très acariâtre, répondit-elle en riant. « Alors vous aurez bien changé. » Nous continuâmes à deviser gaiement en entretenant le beau feu qui flambait entre 2 chenets de fonte. Les cloches sonnèrent la sortie des vêpres et quelques minutes après, nous entendîmes la marmaille jacasser dans le chemin. La veille, nous étions allés à la messe de minuit. Il faisait un froid de loup, avec une bise aigre qui arrachait des larmes. Au retour, nous nous étions serrés autour de la table pour réveillonner. Voulez-vous faire une partie de dames, proposai-je. C'est cela, une partie et la revanche. J'installai le damier lorsqu'on frappa. C'était Léon Semistoufflet, un des métayers du baron de Lansac. Mille excuses. Eh bien, pardon, dit-il en me serrant la main. Je viens vous déranger, monsieur Dantonneau. Pas du tout, monsieur Mistoufflet. Si fait, je viens vous déranger. Vous êtes avenant pour moi, mais n'empêche. Allez toujours, qu'y a-t-il pour votre service ? Le gaillard n'était pas gêné. Avant de vendre une coupe de chêne, il tenait à consulter le plan cadastral pour repérer plus facilement les bornes de sa forêt. Il venait l'après-midi de Noël afin de ne pas perdre une heure de jour ouvrable. « Je sais que tout est fermé, dit-il, mais vous êtes si complaisant, monsieur Dantonneau. » « Un secrétaire de mairie ne doit pas ménager sa peine, répondis-je. « Suivez-moi, ce sera vite fait. » Je pris ma casquette et nous partîmes. Le temps était splendide. Il faisait tiède comme au printemps. J'en fis la remarque à mon compagnon. « Ne m'en parlez pas, fit-il. Ce coquin de soleil tape aujourd'hui. On se croirait au mois de mai. » Et il se lamenta sur l'irrégularité des saisons, affirmant qu'autrefois la nature était plus raisonnable. On avait de la chaleur l'été, du froid l'hiver et des pluies à l'automne. C'était réglé comme du papier à musique. Je l'écoutais d'une oreille distraite car il me tardait de rejoindre Jeanne. Je déroulai le plan sur lequel je désignai au métayer la partie qui l'intéressait. Il promena lentement sur le parchemin son index crevassé, à l'ongle épais et jaune comme de la corne. Oui, faisait-il, oui. Je vois, c'est là. Alors, Ferraud vient jusqu'ici? C'est curieux. Enfin, je vous remercie, monsieur Dantonneau. De rien, monsieur Mistoufflet. Je retourne à la ferme sans me presser. C'est malheureux de transpirer en décembre. Je fis de nouveau route avec lui jusqu'à la maison. Le village était à peu près désert. Le père Fouessard, qu'on soupçonnait d'être centenaire, fumait sa pipe devant sa porte. Nous échangeâmes quelques phrases cordiales. « Je m'étais mis au soleil pour fondre mes rhumatismes, dit-il, mais ça chauffait tant que je me suis retiré à l'ombre. « N'est-ce pas, lui dit M. Mistoufflet, qu'avec ces satanées saisons, on ne sait plus sur quel pied danser. » Oh, repartit philosophiquement le vieux, voilà longtemps que je ne danse plus sur aucun pied. Farceur, cria le métayer. Et, s'adressant à moi avec gravité, je serai franc, monsieur Dantonneau. Tous ces changements qui nous ruinent proviennent du télégraphe. Ces électricités, ces ondes, comme dit le journal, ça trouble le ciel. On prétend que c'est le progrès. Le progrès, je m'incline. Mais à quoi servira le progrès quand rien ne germera plus? Je me taisais. Il me saisit familièrement par l'épaule. Vous qui êtes studieux, monsieur Dantonneau, vous devriez écrire des articles là-dessus. On a trop tiré à coups de canon pendant la guerre, et maintenant on nous empoisonne avec les avions. Et les nuages? On n'y pense seulement pas aux nuages. Si j'étais quelque chose dans le gouvernement, je fusillerais tous les inventeurs. Au revoir, monsieur Mistoufflet. Bonsoir, monsieur Dantonneau. Et merci pour le cadastre. Jeanne m'attendait avec impatience. Nous commençâmes à jouer, poussant les pions après mûre réflexion, car nous étions de première force. La partie était sérieusement engagée, quand Madame Sternebal pénétra dans la salle à manger. La bonne dame était écarlate. « Ah, mes enfants, fit-elle en se laissant tomber sur une chaise, je ne parviens pas à digérer mon déjeuner. J'ai des vapeurs qui m'étouffent. Elle roulait des yeux inquiets et s'éventait nerveusement avec son mouchoir. Jeanne s'empressa, courut chercher de l'eau de mélisse. Moi, je fis plusieurs fois le tour de la pièce en disant des choses vagues, ce qui est pour les hommes la façon ordinaire de se rendre utile. Madame Sternebal suffoquait. Ses mains grasses et courtes tremblaient. J'étais au salon, dit-elle. Je lisais le feuilleton. J'ai senti tout à coup mes tempes se mouiller et une boule qui se formait sur mon estomac. Jeanne lui tendit un verre qu'elle vida à petites gorgées, en continuant de parler. Pour n'alarmer personne, je suis allée m'asseoir dehors. Mais ça ne passe pas. Je ruisselle des pieds à la tête. Ah, mon Dieu, que vais-je avoir? Une congestion? Ne vous affolez pas, madame, lui dis-je. Tout le monde se plaint de la chaleur aujourd'hui. Jeanne me regarda d'un air narquois. Elle croyait que je voulais simplement rassurer sa mère et jugeait sans doute que je manquais d'imagination. Madame Sternebal fut de son avis car elle reprit en haussant les épaules. La chaleur en décembre, vous n'y pensez pas, Roger. Monsieur Sternebal parut à son tour. Il était encore plus rouge que sa femme. Ah, ça, fit-il, que signifie cette plaisanterie? Je ne peux plus supporter la chaleur. Toi aussi, balbutia Madame Sternebal. Alors je ne suis pas malade? C'est le soleil qui est malade. Il se figure être au mois d'avril. Je sortis aussitôt. Dès que j'eus franchi le seuil, je fus étonnée de sentir la caresse d'un véritable vent d'été. J'allais consulter le thermomètre accroché au mur extérieur du préau. Il marquait 28 degrés. Je tirai ma montre. Il était 3h30. Qu'en pensez-vous, Roger? C'était M. Sternebal qui me rejoignait. J'écartai les bras et les laissai retomber pour indiquer mon ignorance. Nous avançâmes jusqu'au milieu de la cour pour examiner le ciel. Un nuage allongé, rose et gris, flottait au zénith et le soleil resplendissait à l'occident où il allait bientôt disparaître. Rien de particulier n'éveilla notre attention. C'était une superbe journée et rien de plus. L'almanach nous apprit que le soleil se couchait à 3h56. Quand il eut sombré derrière l'horizon, la température baissa peu à peu. Cependant, le crépuscule fut exceptionnellement beau. Après le dîner, nous nous aperçûmes que le feu s'était éteint. Il ne faisait décidément pas froid. On ne le ralluma point. Nous n'accordions pas une importance extraordinaire à ce qui s'était passé durant la journée. Nous parlâmes des fantaisies de la nature, des étés de la Saint-Martin. Bref, nous échangeâmes des banalités, comme on devait en émettre sur le même sujet, dans toutes les maisons du village. Notre veillée fut brève, car nous nous étions couchés tard le jour précédent. Je m'endormis d'un sommeil sans rêve. Une espèce d'oppression m'éveilla. Je m'assis sur ma couche, et, ayant respiré à plein poumon sans éprouver la moindre douleur, j'acquis la certitude que mon malaise provenait de ce que j'étais trop couvert. Je me débarrassai donc de l'édredon et je me rendormis, mais pas pour longtemps, car la même sensation me força à rouvrir les yeux. Agacé, je sautai du lit, j'ouvris la fenêtre et m'y accoudai. J'y restai longtemps, humant avec délice l'air un peu plus frais. Des myriades d'étoiles resplendissaient au firmament. La lune argentait les toits des maisons. Les chiens se répondaient comme pour s'inviter mutuellement à redoubler de vigilance. Le bruit du reflux de la Gironde me parvenait, aussi faible que le frisson des saules de la venue du port. Tout donnait une impression de tranquillité et de sécurité absolue. Je me recouchais sans fermer la fenêtre. Je trouvais original de dormir, pour ainsi dire, en plein air à la fin du mois de décembre. Au jour naissant, je me levais. Il était déjà plus de 7 heures. Nul ne bougeait encore dans la maison. Je descendis au jardin pour bêcher un carré de terre que je voulais ensemencer. Je n'étais pas au travail depuis 5 minutes que je transpirais comme au plus fort de l'été. J'ôtais ma vareuse, un chandail que je portais dessous. Je retroussais les manches de ma chemise et je continuais à manier vigoureusement la belle bêche. Fradinotte, mon voisin, passa conduisant un tombereau de fumier. Il m'interpella par-dessus la barrière de l'enclos. Eh, monsieur Dantenot, la terre est bonne ?
Pas mauvaise, pas mauvaise.
En tout cas, ce n'est pas la gelée de cette nuit qui l'a durcie. Si ça dure, les bourgeons de la vigne vont pointer et le premier froid les guillotinera. Diable, ce serait ennuyeux. C'est ce que nous appelons le faux printemps. Espérons que tout va s'arranger. Ce n'est pas la chaleur qu'il nous faut, mais un épais tapis de neige pour détruire ces maudits insectes. Bourrin, Et son âne démarra tandis que je reprenais ma besogne. Quel homme admirable, me dit soudain Jeanne qui était survenue. Venez vite, vous méritez la succulente tartine que je vous ai préparée. Je réajustais mon lorgnon pour mieux voir ma fiancée. Chaque fois que je la retrouvais, elle me semblait plus exquise. Le hasard seul me l'avait fait connaître. Monsieur Sternebal n'était pas mon opticien, mais ayant remarqué à sa vitrine un pince-nez dont la monture me paraissait solide, j'entrai pour l'acheter. Une fée me servit. C'était Jeanne. Elle m'a avoué depuis que j'avais été ridicule. Je ne savais plus ce que je disais. Je me trompais dans le nombre des dioptries. Ceux qui ont aimé comprendront ce trouble qui révèle infailliblement la sincérité du cœur. Je revins le jeudi suivant, j'achetai un autre lorgnon. Et cette seconde entrevue avec Jeanne ne fit que renforcer mon sentiment. Je n'ai jamais été très hardi. Chaque semaine, régulièrement, je me rendais chez Sternebal avec l'intention formelle de déclarer mon amour. Mais dès que j'entrais dans le magasin, mon courage s'évanouissait, l'angoisse m'étreignait la gorge, et je m'en allais après avoir fait l'emplette d'un nouveau lorgnon. Pendant les vacances de Pâques, j'allais 5 jours de suite faire changer mes verres. Le dernier jour, M. Sternebal sortit de l'arrière-boutique. « Jeanne, dit-il, ta mère te demande. Je vais m'occuper de monsieur. » Quand la jeune fille eut disparu, il me regarda bien en face, avec une gravité qui n'était pas dénuée de sympathie. « Monsieur, me dit-il, vous vous ruinez en lorgnon. Vous êtes un grand briseur de verre et un fameux bourreau de monture. Vous auriez intérêt à vous adresser à une maison de gros. » Interloqué, j'eus un pauvre sourire et, jetant un coup d'œil vers la porte, je pris mentalement mes dispositions de fuite. « Je ne serai pas fâché de savoir qui vous êtes, » continua M. Sternebal, en obstruant délibérément mon chemin de retrait. Comme j'étais incapable d'articuler une parole, je lui tendis ma carte. « Ah ah, » fit-il, « vous êtes instituteur ? J'ai un petit cousin dans le corps enseignant, Philippe Escarpi. Il est de ma promotion, » m'écriai-je d'une voix de stentore. « Merci, Philippe Escarpi. Je ne te l'ai jamais dit, mais tu m'as rendu un fier service. J'ai parlé de toi avec émotion. J'ai ressenti pour ta personne une affection extraordinaire. Tu es brusquement devenu mon meilleur ami, Mon frère, je me suis enquis de ta santé, de tes aspirations. J'ai appris avec un plaisir immense que tu allais te marier. Ah, la vie de famille, la femme qui coupe près de la lampe, les enfants qui jouent sur le tapis, les beaux-parents qui dispensent généreusement les conseils de l'expérience. Je fus si chaleureux, si éloquent, que je faillis faire pleurer la bonne Madame Sternebald, qui avait rejoint son mari. Un regret, je pris enfin congé. Monsieur Sternebald m'accompagna jusqu'au seuil de sa boutique, et là, il me dit « Au revoir, Monsieur Dantonneau. Je vous attends demain, puisque vous êtes en vacances. Et désormais, ne vous croyez pas obligé d'acheter des lorgnons pour causer avec ma fille. » En perdant son meilleur client, il s'attachait à un gendre. Voilà pour vous, monsieur le gourmand. Je croquai à belles dents une énorme tranche de pain grillé et beurré que j'arrosais d'une tasse de café au lait. Madame Sternebald me tint tête avec honneur, car elle avait bon appétit. Vers 9 heures, alors que je parcourais les journaux que venait de m'apporter le facteur, on m'appela. Monsieur Sternebald était planté devant le thermomètre et hochait pensivement la tête. 28 degrés, dit-il. Ça grimpe à vue d'œil. C'est singulier, dis-je. Nous avons la même température qu'hier soir. Nous la dépassons, mon cher. Peu à peu, le niveau du liquide rouge montait dans le tube du thermomètre. L'ascension était lente, mais régulière. En un quart d'heure, le niveau atteignit 29 degrés. En une demi-heure, 30. Fantastique. Fantastique, murmurait mon futur beau-père. Votre instrument n'est-il pas détraqué? Je ne pense pas. Allons consulter celui de la mairie. Christi, quelle canicule, soupira Monsieur Sternebald. Le thermomètre de la mairie était fixé dans le coin supérieur du panneau contenant les avis officiels et les discours parlementaires jugés dignes de l'affichage et que nul ne s'amusait à lire. Le dit panneau, faisant face au sud-est, était par conséquent en plein soleil. 29 degrés, 3 dixièmes, s'exclama M. Sternebald. Le maire, M. Natechoux, signait quelques pièces. Il sortit en entendant nos voix pour nous dire que sa stupéfaction égalait la nôtre. Il émit quelques inutiles considérations sur la météorologie, puis tira la petite gironde de sa poche. Le grand quotidien bordelais publiait un entrefilet ainsi conçu. Nous avons bénéficié, vendredi, d'une soirée idéale. La journée avait été plutôt maussade lorsque, vers 3 heures, les rayons soleil augmentèrent de force. Nos concitoyens, très nombreux dans les rues du centre, où ils admiraient les somptueux étalages des grands magasins, constatèrent que la température changeait rapidement et agréablement. Même après la disparition du soleil, un vent chaud souffla, et la plupart des promeneurs quittèrent avec satisfaction leur pardessus et leur manteau. Interrogé sur le phénomène, un de nos plus éminents astronomes de l'observatoire de Floirac l'a attribué à un courant atmosphérique anormal. Selon lui, une véritable vague de sirocco, ayant pris naissance aux confins du Sahara, a franchi la Méditerranée et a fait sentir son influence sur la majeure partie de l'Europe. Cette explication semblerait plausible si la même température, 28 centigrades, n'avait été enregistrée à la même heure à Madrid, à Paris et à Londres. Comme la veille, nous examinâmes le soleil. Il avait un éclat insoutenable et le ciel était d'une pureté absolue. L'intensité de la radiation n'augmentait plus avec la même régularité. À 11 heures, le thermomètre dépassait à peine 30 degrés. Je cessai alors de l'épier, car nous avions à célébrer un mariage. Le cortège nuptial ne tarda pas à paraître. Derrière un violon, gratté par un ménétrier paresseux, les époux et les invités étaient en nage. Il leur tardait d'arriver pour s'abriter des rayons brûlants. Les femmes, surtout, enroncées dans leurs vêtements d'hiver, surchargées de lainages et de fourrures, étaient au supplice. Le parrain de la mariée marchait tête nue et avait confié ce haut de forme à sa filleule. La cérémonie commença par la lecture de l'acte. Pendant que j'annonçais les phrases que je savais par cœur, j'observais l'assemblée qui semblait recrue de fatigue. Monsieur Robert Émile de Frézois, consentez-vous à prendre pour légitime épouse? J'attachai obstinément mon regard sur le parrain de la mariée. Ce vieillard éprouvait une émotion indéniable. Il ouvrait et fermait la bouche comme un poisson tiré de l'eau et ses paupières s'arrondissaient démesurément. Mademoiselle Ernestine Gabrielle Tardiveau, consentez-vous à prendre pour... Le parrain devenait ponceau. Tout à coup, il s'écroula en donnant un rude coup de poing sur le nez de sa voisine. Ce fut un tumulte effroyable, un désordre sans nom. Les femmes parlaient toutes ensemble. Quelques enfants pleuraient. Les hommes s'interrogeaient les uns les autres. Jamais je n'ai vu pareil tohu-bohu. De l'air, dis-je d'un ton comminatoire. On s'écarta un peu et j'étendis le malade sur le plancher. Il était complètement inerte, mais son pouls battait assez nettement. À tout hasard, j'allais lui faire exécuter des mouvements respiratoires quand le docteur Caffier traversa la place de la République. Il sauta de son cabriolet, assujettit la chaîne de sûreté à sa roue, fendit la foule avec autorité et s'accroupit près du vieillard. « C'est une insolation, dit-il. Relevez largement sa manche. » Nous allons le saigner tout de suite. J'obéis, tandis qu'il choisissait une lancette dans sa trousse. Une insolation, disait-on. Une insolation en décembre. Oh là là, une insolation. La veine traçait une petite raie bleue sur la peau blanche. D'un geste vif, M. Caffier enfonça sa lancette. Je la vis disparaître à moitié dans la chair, et je pâlis, sans lâcher le bras du pauvre homme. Une goutte de sang perla au bord de la petite plaie. Ce fut tout. La blessure resta ouverte, mais aucune autre goutte ne parut. Dit le docteur sans cacher son appréhension. Il donna un second coup de lancette plus profond, un peu plus haut. Cette fois, je n'aperçus même pas une goutte de sang. Il se pencha sur le malade, colla son oreille sur la poitrine à l'endroit du cœur. Ensuite, il se releva et dit à mi-voix « Il est mort ». Le silence était absolu. Tout le monde entendit ces trois mots. Ernestine Gabrielle Tardiveau s'évanouit en poussant un cri terrible. Les hommes se découvrirent d'un même geste. Une vieille, j'ai su plus tard que c'était la femme du mort, une vieille glapissait d'une voix extraordinairement aiguë. « Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai !» C'était bien vrai pourtant. L'homme avait trépassé. Le soleil venait de faire sa première victime. Les larmes coulèrent, les lamentations s'élevèrent. Il me tardait de rejoindre mon futur beau-père que cette scène tragique avait fortement impressionné. Mais je fus obligée d'assister M. Natechoux, de rédiger sous la dictée de M. Caffier une sorte de procès-verbal au bas duquel il apposa sa signature, d'attendre qu'on eût emporté le cadavre, de sorte qu'il était 1 heure quand nous reparûmes à l'école où Jeanne et sa mère commençait à s'inquiéter de notre retard. L'après-midi, la chaleur devint torride. L'ardeur du soleil était telle que nous n'osâmes pas bouger de l'appartement. Le thermomètre que j'avais transporté dans la cuisine, c'est-à-dire à l'ombre, monta jusqu'à 35 degrés. Nous tirâmes les volets, nous baissâmes les stores, et monsieur et madame Sternbald firent une bonne sieste. Jeanne et moi, nous ne songions pas à dormir. Tout près l'un de l'autre, les yeux dans les yeux, les mains tendrement unies, nous faisions des projets merveilleux et nous bâtissions des châteaux en Espagne.